Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le ténor Reinout van Mechelen qui vient nous présenter sa discographie. Bonjour Reinout.
Bonjour.
Alors je résume votre parcours. Vous êtes diplômé en 2012 du Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Dina Grossberger. Votre carrière avait démarré bien avant puisque déjà en 2007 vous aviez participé à l'Académie baroque européenne d'Ambronay sous la direction musicale d'Hervé Niquet. En 2011, vous intégrez le Jardin des Voix de William Christie et Paul Agnew et vous vous imposez rapidement comme soliste régulier des arts florissants. Avec eux, vous vous produisez sur des scènes telles que le Festival d'Aix-en-Provence, le Festival d'Édimbourg, le Château de Versailles, le Théâtre du Bolshoï de Moscou, le Royal Albert Hall et le Barbican Centre à Londres, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ou la Philharmonie de Paris. En 2014, vous chantez pour la première fois l'Évangéliste de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach avec le Royal Liverpool Philharmonic. En 2016-2017, vous faites vos débuts à l'Opéra de Zurich dans le rôle de Jason de Médée de Charpentier sous la direction de William Christie. Vous êtes également Belmonte dans l'Enlèvement au Sérail de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Gérard de Lacmé avec l'Orchestre de la Radio Bavaroise, deux prises de rôle qui marquent un élargissement significatif de votre répertoire. Vous fondez en 2016 votre propre ensemble à Nocte Temporis et effectuez des tournées triomphales avec des projets consacrés aux personnages de Duménil, Clérambeau, Jean-Sébastien Bach ou aux Dublin Gardens. Vous êtes déjà lauréat de nombreux prix et notamment du prix Cecilia pour le meilleur enregistrement de l'année, des chocs du magazine Classica, de Diapason d'or, de Teen van Clara et de bien d'autres distinctions. Je vous propose de débuter notre entretien par un air de la canta « Herr Christ der eine große Sohn » de Jean-Sébastien Bach.
Ach, zeig mich,
Yeah.
Un air de la cantate Herr Christ der Einge, Côte Zone de Jean-Sébastien Bach, dans l'interprétation de notre invité Reinout van Mechelen. Dis-nous, Reinout, comment avez-vous découvert votre voix?
Je pense que c'est ma mère, en fait, dans le sens que je viens d'une famille assez musicale, surtout les oncles étant du côté de mon père. Et du coup, on faisait de la musique, on chantait ensemble, et c'est ma mère qui relativement vite avait dit, il faudrait que tu cherches un chœur pour aller chanter comme enfant. Ce que j'ai fait relativement tôt, je pense que j'avais 10 ans, quand je suis allé au chœur, à Kesselois, à Louvain, d'où je viens, et j'ai chanté tout le temps. Je n'ai plus arrêté parce que donc, j'avais toutes les semaines le chœur. Après, j'ai fait même plusieurs chœurs. Et j'ai cette étrangeté dans ma vie, ce qui est assez génial, c'est que je suis passé de choriste amateur vers soliste professionnel presque sans jamais m'arrêter, en fait. Donc c'est super parce que la musique a toujours eu sa place et sous différentes formes, et c'est génial.
Et vos parents étaient musiciens eux-mêmes?
Non, c'est mon père, il est musicien amateur. Mais c'est surtout son frère, donc mon oncle, et ma tante, la sœur de mon père, qui sont tous les deux musiciens professionnels. Donc c'était jamais très loin.
Comment est-ce que vous définiriez votre tessiture? Haute contre, ténor léger, ténor di grazia?
En fait, je suis ténor, je suis du genre à pas... quand il y a maintenant sur Wikipédia toutes les formes possibles des voix, et du coup un tel doit chanter un tel et un tel doit chanter un tel. Moi, je suis ténor, j'ai une facilité dans les aigus que j'ai aussi développée avec une certaine technique, et du coup je chante le répertoire de haute contre qui était tout simplement au XVIIe et XVIIIe siècle en France, des ténors, on les appelait les haute contre, et c'était des ténors avec une facilité dans les aigus, mais c'était quand même très clairement des ténors. Après, ils chantaient parfois la deuxième ligne dans le chœur, ce qui prête à beaucoup de confusion. Mais donc, je suis ténor qui chante dans le 17e, 18e français les parties de haute contre, ténor léger, lyrique léger. Je ne sais pas à quel point ma voix est légère. Après, le seul vrai rôle, parce que vous avez dit que j'ai chanté Belmonte, mais c'était dans quelque chose de... pour les enfants, donc c'était pas le rôle en entier, mais j'ai chanté Tamino en entier à la Monnaie, et quand je lis tous les rôles de Mozart, soi-disant, c'est pour la voix la plus lourde, ce que je crois pas. Donc voilà, je crois que je suis un ténor. Je suis un ténor, je suis un chanteur, je suis un musicien.
C'est ça, c'est point à la ligne, il faut pas de classification.
Ouais, Bon, normalement, j'allais chanter Paris dans la Belle Hélène en décembre dernier. Bon, pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas fait. J'ai chanté Nadir dans Le Pêcheur de Perles. Donc, c'est des choses 19e, plutôt léger, mais voilà. Je découvre tous les jours encore.
Et alors, dans votre jeunesse, quels étaient vos héros musicaux? Qui étaient les chanteurs que vous écoutiez?
En fait, peut-être pour ça aussi que j'ai vraiment commencé par la musique ancienne. J'écoutais beaucoup la musique ancienne. Donc, on avait aussi un instrument de la flûte enchantée que je chantais avec. On avait un instrument de la Saint-Mathieu, même deux, à chaque fois de Philippe Hervègue, avec qui je travaille maintenant. J'avais pas vraiment de héros comme ça, sauf c'était Fritz Wunderlich quand même, le Tamino sur notre flûte enchantée. Donc il y avait des gens comme ça, mais aussi beaucoup la musique Renaissance, donc où la voix soliste est moins, où c'est vraiment le mélange des voix. Donc j'en avais pas juste un, mais bon, Fritz Wunderlich, c'est quand même quelqu'un que je cite beaucoup. Après, Howard Crook, avec qui j'ai pris quelques cours, qui a fait beaucoup de Bach, mais aussi beaucoup de musique française. C'était l'évangéliste sur une passion qu'on avait à la maison. Donc, c'est aussi quelqu'un comme ça qui était là.
Ouais. Alors, je vous propose de continuer la découverte de votre parcours. Et nous allons écouter My Nanny O, un extrait de l'album de Dublin Gardens. Thank you. Nanny O, un extrait de l'album de Dublin Gardens, un album paru chez Alpha avec notre invité Reinout van Mechelen. Reinout, en quoi consiste cet album Dublin Gardens?
En fait, cet album, c'est la première fois que j'ai partagé la direction. Bon, après, on n'est que 5 personnes, donc ce n'est pas comme si quelqu'un est en train de diriger des gens avec sa main, mais c'est quand même vraiment le projet de ma femme, Anna Besson, la flûtiste de l'ensemble, qui est passionnée de musique irlandaise depuis qu'elle a 11 ans, voire moins, je crois. Musique irlandaise traditionnelle, donc la musique folklorique. Et ce qui l'intéressait beaucoup depuis très longtemps, c'est la musique historique irlandaise. Ce qui n'est pas facile, c'est donc la musique historique, c'est-à-dire la musique 18e, l'époque que donc elle joue le traverso, un instrument qui a gagné beaucoup en popularité dans le 18e siècle.
Et qui s'apparente à la flûte, en fait. Hein.
Oui, donc c'est comme la flûte traversière, mais en bois, sans clé et tout ça. Donc c'est cet instrument-là. Et donc, comment aurait été cette musique irlandaise au XVIIIe siècle. Ce qui est difficile, c'est que, bien évidemment, la musique folklorique, c'est une vraie tradition orale. Donc, on n'a pas toujours toutes les sources. Mais elle a quand même trouvé beaucoup de sources au point que cette musique folklorique commence à se mélanger avec quelque chose de plus bourgeois. Quand les gens vont plus les jouer aussi dans les salons, parce qu'à l'époque, bon, on n'achetait pas de disques, on allait acheter une partition pour pouvoir la jouer à la maison. Et donc, vraiment, à ce moment, la musique folklorique qui devient un peu, qui se bourgeoisise un peu, c'est à ce point qu'on a fait, c'est surtout elle qui a créé ce programme de Dublin Gardens. Par exemple, la musique folklorique, en général, il n'y a pas de basse, c'est-à-dire on joue la mélodie. Nous, dans la musique des 17e et 18e siècles, il y a ce qu'on appelle une basse continue. Donc, on écrit une ligne de basse avec des chiffres qui donnent à la personne qui joue l'instrument à accords, c'est-à-dire le clavecin ou le luth, il sait ce qu'il doit jouer comme accord. Ça, c'était juste à ce moment, dans la musique folklorique, il n'y avait pas, sauf pour la rendre accessible à ces gens-là. On commençait à mettre des basses, il y a parti par là des choses qu'on a dû arranger, qu'on a fait nous-mêmes, où on n'a pas rajouté de basses. Il y a une longue pièce que je chante tout seul, de Seanos, donc de chant vraiment en gaélique, en irlandais. Donc c'est vraiment une recherche comme ça, une espèce de soirée imaginaire dans le château de Dublin et les jardins de Dublin Gardens, c'est les jardins autour de ce château à Dublin. Et c'est vraiment cet imaginaire qui a fait ça, où il y a vraiment ces deux mondes qui vont ensemble. On a constitué un programme de ça. Et c'était je pense que c'est un chouette CD, mais c'est surtout...
Elle est formidable.
Quand on fait des concerts avec ce programme, il y a une espèce d'énergie avec aussi toutes les autres musiciens qui sont là. C'est absolument formidable de pouvoir jouer ça et de toucher des gens. Bon, ça fait un moment maintenant, mais qu'on a voilà, c'est un chouette programme pour ça.
Alors, je vous propose maintenant de passer à autre chose. Voici un extrait donc d'un autre album, « Doux repos de l'indifférence » de Louis-Nicolas Clérambault. Reinhold van Mechelen est accompagné de son ensemble « A nocte temporis ».
Thank you.
doux repos de l'indifférence de Louis-Nicolas Clérambeau, notre invité, Reinhold van Mechelen, était accompagné de son ensemble à Nocte Temporis. Reinhold, qui était Louis-Nicolas Clérambeau?
C'est un compositeur début 18e en France. Apparemment, j'ai lu sa biographie, je pense qu'il se trouve que sa mère était même une Flamande, ce qui est quand même assez drôle oui. pour moi, vu que je suis flamand aussi. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc en France, bien évidemment, il y a le grand Lully qui a fait l'ombre sur tous ses contemporains, les gens après lui. Il y a Charpentier qui est un peu connu. Et après, beaucoup plus tard, il y a Rameau. Et entre ces deux-là, déjà, les compositeurs ne sont pas très connus. Et surtout, Nicolas Clérambeau. Parce que, en fait, Louis-Nicolas apparemment, c'est plutôt Nicolas Clérambeau, selon les récentes recherches. C'était un compositeur qui écrivait surtout de la musique à l'église où il travaillait à Paris. Donc récemment, on a fait des œuvres, son Te Deum et l'histoire de la femme adultère. Donc des œuvres sacrées qu'il a écrites. Il a écrit beaucoup pour la chambre parce qu'il a été à la chambre du roi. Il a composé donc beaucoup de cantates, de musique de chambre. Mais il a seulement écrit une pastorale, donc une espèce d'opéra qui n'est pas très connue. Donc, vu qu'il n'a pas été très actif à l'opéra, il n'est pas très connu. Sauf que sa musique, pour moi, est assez clé entre Lully et Rameau, comme on sent déjà la richesse harmonique qui devient de plus en plus grande et toutes les couleurs qu'il essaye quand même dans les cantates. Il y a finalement très peu d'instruments où il met quand même beaucoup de couleurs. Et donc, pour moi, quand je savais « Oh, je veux faire quelque chose avec des cantates françaises », c'était assez évident de commencer avec des cantates de lui vu qu'il est quand même vraiment très fort et il met aussi très en valeur dans certains cantates comme Pyramétis B, la voix de haute contre, donc la voix des ténors aigus. Et donc, rien que cet air doux repos de l'indifférence, c'est tellement fort comme musique que c'est quand on lit des pièces, bien évidemment, quand on enregistre un programme de 70 minutes, il n'y a jamais 70 minutes qui ont la même qualité, mais c'est avec ce type d'air qu'on dit... Faut qu'on enregistre cette cantate. C'est comme ça qu'on choisit.
Vous enregistrez Lully, Clérambeau, De Marais, Charpentier. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce répertoire français et cette période?
C'est sans doute parce que ma voix m'a poussé d'aller vers cette musique-là. Et aussi, mais même avant que j'avais découvert cette voix de haute contre à la française, je me rappelle... J'étais allé voir Le Roi Danse au cinéma et ça m'avait beaucoup impressionné. Il y a dans cette musique française parfois une simplicité que certains gens, du coup, ils n'aiment pas trop la musique parce que c'est trop simple ou quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans et aussi c'est une musique qui est très proche du texte. Ce que j'aime beaucoup, c'est beaucoup moins une musique qui est de la voix pour de la voix. Comme il y a beaucoup dans la musique baroque, ce qui est agréable aussi, mais cette proximité du texte et de la poésie, ça me plaît beaucoup dans cette musique française. Et aussi, c'est une place que j'essaie de prendre parce que je trouve que cette musique est trop peu défendue en dehors de la France, déjà en France, mais aussi en dehors de la France, donc en Belgique, on reste un peu loin, surtout bien évidemment en Flandre. Mais je trouve que cette musique a vraiment tout ce qu'il faut pour bien pouvoir la défendre. Et c'est pour ça que je prends un peu ce rôle-là.
Et vous le faites magnifiquement bien. Alors, on va poursuivre la découverte de votre discographie avec un extrait de l'Armide de Lully. « Plus j'observe ces lieux, plus je les admire. » Et ici aussi, Reinhold van Mechelen est entouré de l'ensemble « A Nocte Temporis ».
Thank you.
Plus j'observe ces lieux, plus je les admire. De l'Army de Lully, notre invité, Reinhold van Mechelen, était entouré de son ensemble à Nocte Temporis. Alors, Reinhold, vous avez consacré un album à Louis Gaulard du Ménil. Qui était-il ?
C'était le Haute-Contre, la Haute-Contre, c'est d'ailleurs très compliqué parce qu'on dit la Haute-Contre, c'est la voix de Haute-Contre, mais du coup, les gens vont penser que c'est une femme, sauf que c'est bien un homme. Donc, qui a chanté les derniers rôles de la carrière de Lully et après les successeurs de Lully, vu que, bon, désolé, ça devient un peu technique, mais Lully s'était arrangé avec le roi qu'il était le seul qui avait les droits en France à ce moment-là d'écrire des opéras. Donc, on ne peut pas, c'est impossible de chanter des opéras français d'exactement la même époque parce que c'était interdit. Donc, je voulais faire quelque chose autour de la voix d'Haute-Contre. Je voulais le faire en forme de trilogie. Donc, on a déjà enregistré le deuxième volet, mais qui va sortir qu'en fin de cette année. Il y aura donc deuxième volet qui sera plutôt époque Rameau et troisième volet, l'époque que Gluck était à Paris. Et c'est plutôt un des derniers Haute-Contre. Mais donc, le premier que j'ai choisi, c'était ceux du Ménil, parce que quand j'ai regardé les gens qui ont chanté du Lully, si je voulais chanter autre chose que Lully, il fallait bien que je choisisse celui-là, parce qu'il a aussi continué sa carrière après la mort de Lully. Et donc, c'était Haute-Contre. On ne peut pas dire qu'il était un brillant musicien, parce qu'il ne savait pas lire les notes. C'est un chef de cuisine que l'histoire veut que Lully l'a entendu chanter dans la cuisine. Et du coup, Lully l'a formé. Il n'a jamais réussi à former sa lecture musicale, mais donc il apprenait les rôles à ceux du Ménil, donc il avait une belle voix. Après, c'est un personnage, apparemment il n'était pas toujours très bien dans le sens qu'il y a des histoires comme quoi il a été bourré sur scène et des choses comme ça. Donc, haut en couleur, mais qui a chanté beaucoup de ses rôles très importants, comme Renaud dans Armide ou Amadis, ou encore Jason dans Médée. C'était aussi lui qui a créé ce rôle, donc qui a chanté cette musique pour la première fois.
Duménil était haute-contre. Est-ce que les haute-contres utilisent la voix de fausset comme les contre-ténors ?
En fait, le contre-ténor utilise exactement comme vous dites la voix de fausset, donc un homme qui veut imiter une femme pour parler va utiliser sa voix de fausset. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui les contre-ténors. Mais en fait, la voix de contre-ténor, historiquement, a eu très peu de place parce qu'il y avait les castrats. Donc en Italie, il y avait les castrats qui chantaient les grands rôles, qui sont après allés en Angleterre. Il y en avait un peu en Allemagne. Mais en France, les castrats, c'était bien pour le cirque, mais ils n'aimaient pas trop dans la musique. Il y a quelques exceptions, mais c'était plutôt donc les voix masculines, les voix de poitrine qu'on faisait chanter dans les aigus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait jamais aucune note chantée en voix de fausset ? Peut-être pas. Mais aussi quand je lis l'écriture de la musique, aussi dans Rameau, quand ça va plus tardif, ils écrivent un peu plus aigu, c'est quand même souvent sous-entendu que ça doit être fort et costaud, donc plutôt en voix de poitrine, donc la voix masculine.
Donc la voix de ténor moderne, comme on l'entend à l'heure actuelle.
Disons ça, oui. Il y a toute une théorie quand le ténor chantait pour la première fois les aigus en voix de poitrine et tout ça, mais on sait même que les Italiens qui venaient en France dans le XVIIIe siècle, ils disaient, mais pourquoi ces ténores, ils hurlent tellement dans les aigus? Et plutôt en Italie, maintenant, quand on pense à la musique italienne, on pense à des voix plus larges. En fait, c'était plutôt en Italie qu'on allait aller vers les aigus en voix de fausset ou en espèce de voix très allégée, comme ça. Donc, on croit parfois des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc, c'était quand même des voix vraiment de ténor. Mais bon, après, il y a par exemple sur les disques un air de sommeil. Je le chante en voix de poitrine, mais on ne va pas le hurler non plus. Ce n'est pas le concept d'un sommeil.
Donc, voilà. Absolument.
Donc, on essaye de répondre un peu à ce que la musique nous demande.
Alors, on va poursuivre avec justement « Ah, que le sommeil est charmant », tiré de la tragédie musicale Circé d'Henri Demarais.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Ah, que le sommeil est charmant, tiré de la tragédie musicale Circé d'Henri de Marais, Reinhold von Mechelen. Notre invité était entouré de son ensemble Anocte Temporis sur un album du label Alpha. Reinhold, comment vous êtes venu l'idée de fonder votre propre ensemble ?
C'était une espèce de besoin de changer de temps en temps un peu de rôle, c'est-à-dire j'adore travailler avec les autres, avec d'autres chefs. J'ai eu la chance les derniers mois de travailler encore parce que je faisais partie des productions qu'on a filmées, donc qui sont maintenues avec d'autres gens, mais aussi avec mon propre ensemble, on a fait certaines choses. Et de temps en temps, je voulais pouvoir choisir avec qui je travaillais, quelle musique et comment maîtriser en quelque sorte le projet. Donc c'est pour ça, et aussi je l'ai fait ensemble avec Anna Besson, donc mon épouse, pour pouvoir faire des projets musicaux ensemble. Donc c'est quelque chose qui vient pour moi vraiment compléter un peu qui je suis en tant que musicien. J'avais absolument pas besoin de plus de travail parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir beaucoup de travail, bon, sauf donc en 2020, mais c'était pour compléter ce besoin. Et finalement, c'est pas évident parce que surtout, on cherche plus de problèmes parce qu'il faut trouver les sous, il faut trouver les concerts, il faut trouver les bons gens, il faut organiser l'agenda. Mais de pouvoir mener un groupe, ça me plaît énormément et de pouvoir inspirer des gens autour de moi. Parce que là, quand on entend l'orchestre, il y a des moments même que je dirige. Et c'est, j'aime beaucoup prendre ce rôle aussi, sans pour autant de quitter les projets avec les autres gens. Et ça m'équilibre dans les deux sens. Quand je suis avec les autres, et il y a des choses, bien évidemment, qui ne vont pas comme on veut, mais du coup, je sais que de l'autre côté, j'ai ce propre projet. Et quand j'ai ce propre projet, parfois, il faut prendre quand même beaucoup de responsabilités et c'est beaucoup de stress. Je sais qu'il y aura d'autres projets où j'ai un autre rôle qui adoucisse un peu.
Et ce n'est pas extrêmement difficile de chanter et diriger en même temps?
En général, ce qui m'arrive quand je chante, sauf le premier jour de la répétition, en général, quand c'est avec orchestre, hein, pas quand on est avec cinq, mais quand c'est avec orchestre, le premier jour, je chante et je dirige en même temps. Mais l'idée, c'est que quand c'est devant des gens, je dirige seulement quand je ne chante pas. Donc, l'orchestre est mené par le premier violon qui montre les choses. Et nous, on est en très bonne communication entre moi et le premier violon pour faire en sorte que tout soit ensemble. Et après, il faut, dans les danses, donc quand je ne chante pas, je dirige. Et il faut surtout que je fasse attention à moi parce que je peux être parfois tellement enthousiaste à diriger que je suis épuisé pour chanter, ce qui n'est pas idéal non plus. Donc ça, mais ça, petit à petit... on apprend comment gérer son énergie, mais c'est passionnant.
Dites-moi, vous avez enregistré avec l'ensemble Vox Luministe Lionel Meunier. Comment l'avez-vous rencontré?
Oh, quand est-ce qu'on s'est rencontré? Ça fait longtemps qu'on s'est déjà rencontré, mais je pense que la première chose qu'on a fait ensemble, c'est justement la descente Orphée aux Enfers, mais il y a longtemps ailleurs, avec encore un autre ensemble aux Pays-Bas. On a fait aussi des projets de Bach ensemble. J'ai chanté du Rameau avec lui. Et donc, c'est aux Pays-Bas finalement, mais c'est lui qui me connaissait déjà. Et on s'est déjà rencontré quand j'ai fait un projet à La Haye. Il y a très longtemps, il n'avait pas participé, mais on s'était vu. Donc voilà, il savait qui j'étais, moi je savais qui il était. Et on s'est rencontrés petit à petit. Et finalement, ce projet Orphée a eu plusieurs options dans le passé, comment on allait le faire, mais finalement on l'a fait ensemble, avec les deux ensemble réunis, et voilà, comme ça on a fait ce projet.
Eh bien, je propose justement d'en écouter un extrait, donc un extrait de la descente d'Orphée aux Enfers de Charpentier, où l'ensemble Vox Luministe Lionel Meunier rejoint l'ensemble Anocte Temporis de notre invité Reinhold van Mechele. Voici, vous partez donc Orphée. Un extrait de la descente d'Orphée de Charpentier avec l'ensemble Vox Luminis de Lionel Meunier et l'ensemble A Nocte Temporis de notre invité Reinhold van Mechelen. Reinhold, vous abordez aujourd'hui des rôles comme Tamino de La Flûte Enchantée ou Gérald de Lacmé. Quelles sont les différences techniques pour passer du répertoire baroque français à Mozart ou Delibes ? Est-ce que c'est très différent ?
C'est une très bonne question et c'est difficile d'en répondre pour les auditeurs dans le sens que c'est très technique. Mais il y a des gens, il y a certains chefs d'orchestre, mais qui ne sont pas chanteurs, qui disent qu'on chante cette musique pas avec la même technique. Moi, en tant que chanteur, la technique vocale me passionne beaucoup et moi, je suis absolument convaincu qu'on la chante avec la même technique. On essaye toujours de chanter en contrôlant sa voix pour aussi faire, pour pas faire mal à la voix pendant qu'on chante, pour en quelque sorte libérer la voix des tensions superflues. Bien évidemment, il y a une forme de tension qui est là quand on chante, mais pas des tensions superflues. Qu'est-ce qui change, c'est on laisse vibrer la voix. Il y a un vibrato qui arrive dans la voix. Dans la musique baroque, pour moi, il est très important qu'on sait le gérer bien, c'est-à-dire qu'on sait, là, je veux vibrer, et là, sur cette note, je ne veux pas vibrer. Ça devient très technique, mais il y a dans la musique des notes qui frottent avec des notes, des tensions musicales, ce qui sont très intéressants. Et quand on met trop de vibrato dessus, ou même quand on met un vibrato dessus, on entend moins ce frottement. Donc, dans la musique baroque, j'essaye vraiment de bien maîtriser ces vibrato. Que je, finalement, dans la musique romantique, je maîtrise aussi, mais je vais en mettre plus. Je vais laisser plus libre la voix de vibrer comme on veut. On doit aussi, mais ça c'est même pas seulement entre la musique baroque et la musique 19e. J'ai enregistré il n'y a pas très longtemps un album de mélodie 19e, mais c'était un enregistrement. Donc au niveau de volume, on ne doit pas créer beaucoup de volume parce que c'est un enregistrement. Par contre, quand on chante Tamino ou Nadir dans une salle, il faut aussi faire en sorte que la voix projette vraiment très bien et qu'elle passe par-dessus de l'orchestre. Donc on va faire un effort pour ça. Mais même parfois, quand on chante du Rameau, donc encore de la musique baroque, c'est déjà pas mal costaud. Ou même du Lully avec un orchestre dans la salle. Donc il y a beaucoup de paramètres qui changent quand je fais chanter une cantate française avec un octet, avec quatre musiciens autour de moi dans une petite église. Ça peut paraître beaucoup ou très inapproprié de la chanter comme si je venais de chanter Nadir sur une scène. Donc il y a beaucoup de paramètres à maîtriser, mais donc pour moi c'est la même technique, mais qu'on va une même espèce de technique physique pour servir la musique comment elle est le mieux servie. Parce que disons que je fais partie des gens avec la musique baroque, on joue ce qu'on dit historiquement informé, on joue sur des instruments d'époque ou sur des copies des instruments d'époque, donc on s'inspire de ça. Et même quand je chante d'autres musiques, j'essaie toujours de m'imaginer comment cette musique a sonné à l'époque qu'elle a été écrite, comment le compositeur l'avait en tête. J'essaie vraiment de me servir de ça. Et même parfois, on est étonné quand on va chercher, même pour la musique romantique, ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Donc voilà, j'essaye de mettre ma technique en quelque sorte au service de ça.
Et est-ce que chanter fort est plus dangereux pour la voix que quelque chose de plus instrumental, de plus... ou c'est plutôt une question de diapason ?
Oui, on peut aussi, en chantant doux, mais par exemple très aigu, on peut faire très mal à la voix. Et chanter fort, ça, on peut faire très mal à la voix si on le fait d'une façon pas très contrôlée. Moi, j'essaie surtout de bien projeter la voix, c'est-à-dire il y a dans notre crâne, il y a des résonateurs, masque. Il y a des masques, donc on essaie de faire qu'il y a les bons endroits dans le corps qui résonnent déjà pour après faire en sorte qu'il y a les bonnes choses dans la salle, dans l'acoustique qui résonnent.
Alors, est-ce que vous estimez que dans quelle direction votre voix évolue ?
Elle évolue, oui. Et pour le moment encore, l'évolution me va, c'est-à-dire elle prend en ampleur de force, mais en même temps, je ne veux pas... Donc c'est pour ça, une des premières questions, c'était comment définir. Je ne sais pas, on n'a jamais imaginé que je pourrais chanter un grand rôle du répertoire 19e. Mais petit à petit, je me dis, bah, peut-être si. Mais en même temps, j'essaie d'évoluer d'une façon que je ne dois pas laisser derrière moi le répertoire que je peux chanter, c'est-à-dire les rôles d'autres contre, ou aussi l'évangéliste dans une passion. Mais de pas, ça ne m'empêche pour le moment pas de pouvoir chanter un répertoire un peu plus large, un peu plus costaud en quelque sorte. Et j'essaie vraiment de suivre l'évolution physique, mais en même temps de garder une forme d'agilité et de souplesse dans la voix pour pas que ça devienne costaud, mais d'une façon un bunker en béton est aussi costaud, mais j'ai pas envie que ma voix ressemble à ça.
Je comprends. Voilà, Quelle partition vous aimeriez aborder dans un futur proche ?
Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a pour les projets avec un octet temporis, pour le moment, on va rester plutôt dans les répertoires 17 et 18e. Il y a des opéras inconnus que je lis qui se trouvent en ligne. Ce n'est pas des noms complètement inconnus que je ne vais pas trop dire à la radio parce qu'il faut que ça reste mon idée. Il y a d'autres choses, oui, il y a d'autres opéras. J'aimerais bien faire un peu plus de rôles de Mozart parce que j'ai fait seulement Tamino. Il y a.
Et Belmonte, même et c'était Belmonte, pour les enfants,
oui,
mais c'est
oui,
magnifique.
Voilà, rôle. C'était, oui, c'était. Mais par exemple, faire Belmonte en entier, en allemand, ça j'aimerais beaucoup faire. J'ai fait, et ça peut. Péléas, j'ai fait des extraits avec piano, c'est un rôle en baryton et vu que moi on m'imagine ténor aigu, mais en fait c'est tellement proche du texte, c'est quelque chose de tellement poétique et on ne doit pas... Ça j'aimerais bien refaire un jour, Péléas, c'est tellement...
Nous aussi, on aimerait bien vous écouter là-dedans.
Donc voilà, il y a plusieurs choses, je pourrais dire pas mal de rôles, mais il n'y en a pas... Juste un qui me vient comme ça. Il y a dans Mozart aussi les rôles pour des ténors un peu plus âgés, comme Mithridate. Ça, j'aimerais bien faire un jour. Mozart, il était jeune à l'époque, mais Mithridate est un personnage plutôt âgé, vu qu'il a des enfants adultes. Donc voilà, il y a des choses comme ça que j'ai envie de faire. Mais maintenant, honnêtement, très honnêtement, on attend un peu que les choses aussi se calment pour voir dans quoi on peut se lancer. Hein.
Donc, évidemment, les temps sont un petit peu incertains. Ouais. Alors, Reynaud, nous avons comme tradition dans Appassionato d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre ?
Oui, donc j'ai choisi de faire entendre la voix de Howard Crook dans Au cimetière, ce qui fait partie des Nuits d'été de Berlioz. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu votre dernière question aussi, c'est aussi un répertoire vers lequel j'aimerais bien aller un peu, c'est-à-dire pas forcément que les opéras, mais les mélodies avec orchestre, qu'ici, une voix qu'on connaît du baroque, mais il chante ça à merveille. Et donc parfois, par exemple, j'aimerais bien faire les Nuits d'été. Parfois, on oublie que c'est aussi pour un ténor. La tradition veut que c'est plutôt de mezzo-soprano ou des barytons, mais il se trouve que Berlioz a écrit chaque chanson pour une autre voix, et après il y a des versions transposées pour qu'on puisse tout faire. Donc ça, c'est un répertoire qui me plaît beaucoup, et ça me donnait d'occasion de le faire entendre, en plus avec ce brillant ténor Howard Crook.
Alors nous l'écoutons maintenant. C'était donc au cimetière une mélodie tirée du cycle Les Nuits d'été d'Hector Berlioz dans l'interprétation d'Howard Crook. L'orchestre de l'Opéra National de Lyon était placé sous la direction de John Elliott Gardiner. Il s'agissait du choix de notre invité Reinhold van Mechelen. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Reinhold van Mechelen d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à Carlos Amadjoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.